France Info. Et tout est plus clair.
C'est ce qui s'appelle l'effet boomerang. Et c'est un coup dur pour un réseau majeur de pirates informatiques. Évidemment, ils avaient utilisé un virus pour prendre le contrôle à distance de 850 000 quand même ordinateurs dans le monde entier. Et à distance également, des gendarmes français ont pu les neutraliser grâce à une sorte de grand nettoyage. Opération du Centre de lutte contre la cybercriminalité basé à Pontoise. Le serveur informatique des cybercriminels était basé en Île-de-France. Et un tel démantèlement, de cette manière-là, en tout cas, constitue une première mondiale. Précision, Emmanuel Leclerc.
Réussir à mettre en réseau des ordinateurs infectés par un virus, à l'insu de leurs propriétaires, prendre le contrôle de centaines de milliers de machines zombies à distance sur différentes versions de Windows, c'est exactement ce qu'a permis depuis 2016 le virus RetaDup. L'affaire remonte au début de l'année. Le fabricant d'antivirus Avast signale l'existence possible d'un serveur pirate basé en France et qui semble avoir pris la main sur des milliers d'ordinateurs à travers la planète grâce à un programme malveillant. On appelle cela un botnet, l'un des réseaux pirates le plus puissant jamais constitué. Le colonel Jean-Dominique Nollet est le chef du C3N, le centre de lutte contre la criminalité numérique.
Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais 850 000 ordinateurs infectés, c'est une puissance de feu énorme qui permet de faire tomber tous les sites de la planète s'ils le veulent. Il fallait vraiment faire cesser l'infraction.
Pour les cybergendarmes, les créateurs du méga botnet ont réussi des attaques d'envergure depuis 3 ans qui ont généré plusieurs millions d'euros de revenus criminels.
Il est connu pour avoir attaqué les hôpitaux d'Israël et d'avoir volé les données des patients en Israël. Il est connu pour faire énormément de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il fabriquait de l'argent directement avec ses 850 000 ordinateurs.
Mais le tour de force des cybergendarmes, c'est d'avoir réussi à pirater légalement le botnet et son serveur installé en France pour désinfecter ensuite les ordinateurs contaminés dans 150 pays sur la planète.
Grosso modo, on a réussi à détecter où était le serveur de commandement, la tour de contrôle du botnet, et on l'a copié, on l'a répliqué avec un serveur à nous, et on lui a fait faire des choses qui permettent au virus d'être inactif sur les machines des victimes. Là, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'envoyer du code aux ordinateurs victimes pour désactiver les virus, pour que les gens soient tranquilles.
Dans cette affaire hors norme, le FBI et la justice américaine ont permis de bloquer sur Internet des noms de domaines déposés aux États-Unis. Ainsi, à chaque connexion sur la toile, les ordinateurs infectés étaient redirigés très discrètement vers le serveur des cybergendarmes de Cergy-Pontoise et nettoyés au passage. Techniquement et judiciairement, c'est bien une première mondiale.
Affaire effectivement hors norme. Merci Emmanuel Leclerc et bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de ces questions de sécurité numérique, auteur de La cybersécurité publiée aux presses universitaires de France. Ben voilà une bonne nouvelle, les pirates ne gagnent pas toujours.
Alors effectivement, vous voyez que là on a une démonstration. Alors c'est une belle histoire. Pourquoi ? Parce que elle met de la coopération publique-privée, de la coopération police et services judiciaires, et puis de l'international. Mmh. Et puis il faut également de la compétence technique. Et c'est vrai que le C3N, les experts de la gendarmerie avec l'Institut de recherche criminelle sont effectivement compétents dès lors qu'ils ont la matière technique, c'est-à-dire la capacité d'accéder aux informations directement dans les serveurs, comme c'est le cas cette fois-ci.
Alors, du mal a quand même été fait, hein, parce qu'il a fallu des mois et même plus d'un an, je pense, pour arriver à désactiver, à démanteler ce réseau. Il y a du mal qui a été fait entre-temps, quand même.
Certainement. Simplement, la police, la gendarmerie, la justice sont obligés de respecter des règles de procédure. Donc, ça s'est fait avec, justement, la section du parquet de Paris dédiée à la cybercriminalité. C'est important aussi de respecter le droit, un certain formalisme. Et puis, deuxièmement, il faut également agir en toute discrétion. Ne pas créer de perturbation chez le pirate qui ne doit pas voir de prémisse, d'éléments indicateurs que quelqu'un est en train d'intervenir sur ses machines, ou en tout cas sur celles qu'il a infectées. Donc vous avez la règle de droit à respecter, plus la discrétion, de manière à ce qu'une fois que vous passez à l'action, vous puissiez le faire sur l'ensemble du dispositif.
C'est comme l'espionnage classique, hein, ce que vous racontez. On travaille sous couverture, hein, faut être couvert.
Exactement.
Faut être complètement couvert.
Et surtout que votre pirate peut être très mobile. Alors, vous avez parlé des serveurs domiciliés qui étaient localisés en France. Il est vraisemblable que les auteurs, eux, ne se trouvent pas sur le territoire national parce qu'il y avait quand même une majorité de cibles, de victimes, notamment en Amérique latine. Et vous voyez bien que, là encore, les pirates vont scinder entre la localisation de leurs équipements, le lieu où ils se trouvent eux-mêmes et puis là où se trouvent leurs victimes. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est par nature international. Il s'est démantelé, mais c'est-à-dire qu'il a été neutralisé, Techniquement, maintenant, reste la phase judiciaire pour aller poursuivre les auteurs.
Oui, parce que là c'est effectivement quelque chose qui reste complètement mystérieux. On a les pirates, ils courent toujours, hein.
Exactement, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça a été neutralisé techniquement, ce qui est déjà l'arrêt du préjudice, et puis ça porte un coup à l'activité économique de cette entité, de cette organisation, on ne sait pas qui est derrière, mais effectivement, les auteurs, pour l'instant, n'ont pas été identifiés. Il est certain que l'étape prochaine pour les services d'enquête, c'est d'essayer d'identifier celles et ceux qui sont à la manœuvre derrière cette organisation.
Mais ce que vous nous expliquez déjà, Nicolas Arpagian, c'est que le serveur en région parisienne, ça ne veut pas dire forcément le cerveau français, même s'il y a forcément des Français impliqués d'une manière ou d'une autre. Enfin, on a du mal à imaginer le contraire quand même.
Non, il n'y a pas forcément. Pourquoi ? Parce que c'est un achat, si tu veux, vous louez à distance, un peu comme quand vous passez par Internet, le prestataire est en France, vous payez à distance et donc au contraire, d'ailleurs, plus vous mettez des barrières juridiques et donc physiques entre vous et votre modèle d'attaque, plus justement vous compliquez et vous êtes à l'abri ou en tout cas protégé par la coopération policière et judiciaire qui prend plus de temps. Donc l'hébergeur français, il est de bonne foi, surtout s'il a coopéré avec les services d'enquête. Par contre, il ne peut pas présager du fait que ce sont des Français. Il n'y a aucune raison. Au contraire, c'est là où la globalisation du marché numérique fait qu'on peut payer à distance et passer commande de prestations techniques à distance.
Mais alors du coup, si personne n'est français, en tout cas dans la décision, pourquoi le choix de le faire en France ? Question un peu embarrassante, parce que la France n'est pas trop protégée, parce que c'est plus facile de le faire ici ?
Bien sûr que non. C'est simplement, vous le faites en général dans le pays où vous ne vous trouvez pas vous-même en tant qu'attaquant. Donc apparemment, ils ont trouvé un prestataire qui avait un rapport coût prestation de service satisfaisant. Il aurait pu se localiser dans n'importe quel pays. La seule chose, c'est que vous voyez que ce qui est intéressant dans la coopération publique-privée, c'est un éditeur de logiciels privé, commercial, qui a fait ce signalement. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse systématique, il n'y a pas une réponse qui ne serait que des services d'enquête ou au contraire que chez des équipementiers, des prestataires privé, c'est bien une coopération qui est nécessaire par rapport à une menace qui est très très opportuniste.
Eh bien, on comprend bien qu'il reste encore plein de questions, plein de zones d'ombre. Merci infiniment Nicolas Arpagian, spécialiste de cybersécurité, d'avoir été sur France Info.